Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Ormejus et oui, c'est une relance du podcast. On avait commencé en 2017, alors on relance ce podcast avec un nouveau look. Vous le voyez, de nouvelles couleurs, mais comme à l'habitude, bien, on va jaser de football, étant donné que lors des derniers jours, bien, on a eu droit au repêchage de la NFL. Et il y a quelques Québécois qui ont signé avec des équipes de la NFL afin de participer à leur camp des recrues. Alors, on va avoir un de ces joueurs-là, l'ancien secondeur de ligne de l'Université de Memphis, Jeff Quentin-Harcourt, va venir se joindre à moi dans quelques instants. On va jaser de tout ça. Il y a Renaud Bourbonnais qui va venir faire son tour en compagnie de Renaud. Bien, on va analyser justement le repêchage 2024 de la NFL. Puis c'est certain qu'on va parler des Falcons d'Atlanta. On n'a pas le choix. Et comme à l'habitude, Marc-André Chaloux va venir faire son tour afin de discuter de fantasy football. Plusieurs joueurs ont été repêchés. Il y en a qui ont la possibilité, justement, d'avoir un impact pour votre équipe de fantasy football dès le mois de septembre. Alors, on va discuter de tout ça en compagnie de Marc-André Chaloux. Mais tout d'abord, eh bien, le nouveau membre des Dolphins de Miami, Jeff Quentin-Harcourt, se joint à moi afin de l'interviewer. Jeff, j'imagine les derniers jours ont dû être très excitants pour toi. Tu as passé par toute la gamme des émotions. Tout d'abord, on te voit qui porte fièrement la casquette des Dolphins de Miami. Tu as signé avec les Dolphins, tu vas participer à leur camp de recrues qui va avoir lieu au début du mois de mai. Donc, dis-moi là, comment tu te sens maintenant là, que tu portes les couleurs des Dolphins et que tu espères de les porter au mois de septembre également.
Oui, premièrement, Didier, merci là, de me recevoir. C'est toujours un plaisir. Deuxièmement, comme tu le dis, là, j'ai passé par toute la gamme d'émotions durant les derniers 48 heures. Pas être pêché, c'était quelque chose que je peux appeler. J'étais un peu frustré, pas que je m'attendais à être repêché, c'est juste que, tu sais, je m'attendais peut-être, j'avais quand même de l'espoir. Les 49ers m'ont appelé pour leur choix de septième ronde, mais ils ont pris un autre linebacker. Fait qu'à ce moment-là, je savais que j'allais être undrafted. Quand j'allais avoir l'appel, je ne savais pas. C'est ça qui était un peu stressant. Mais hier matin, là, oui, les Dolphins ont appelé mon agent. On s'est assis ensemble, puis on a pris la décision d'accepter l'offre des Dolphins de Miami.
Oui, parce qu'il y a d'autres équipes qui t'ont contacté afin de t'offrir une opportunité de participer à leur camp des recrues.
Oui, il y a eu deux équipes, dont les 49ers. Je trouvais que Miami Dolphins avait un meilleur fit pour moi. Ils jouent une 34. Aussi, j'ai parlé à Matthew, mon ami à Atlanta. Puis, tu sais, lui, il a joué les Dolphins. Il sait un peu, en tant qu'O-line, il sait un peu le talent des linebackers. Puis je crois vraiment, là, puis lui aussi, que je peux aider là, l'équipe à être meilleure là, dans la boxe.
Oui, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, mais tu mises également sur beaucoup de polyvalence. Hein? Toi, je crois que tu te vois plus bon, comme un secondeur intérieur au sein d'une défense 34, mais tu peux jouer sur le coin de la ligne également.
Oui, également. Puis tu parles de polyvalence. Il y a des gens qui ont fait des carrières NFL seulement là, avec les special teams. Moi, mon but, ça va être vraiment de dominer sur Special Teams durant ma première année pour m'assurer de faire partie des 53-man roster.
Oui, parce qu'on a changé le règlement au cours de la saison morte du botté d'envoi du côté de la NFL. Ça, ça pourrait jouer en ta faveur, là, parce que depuis le début de ta carrière universitaire, si on remonte à l'époque où tu portais les couleurs de l'Orange de Syracuse, ben, tu as été en mesure d'exceller sur les unités spéciales.
Oui, vraiment, là, quand j'étais ici au Québec, à Garneau, au Cégep, j'avais un coach, Yannick Morin-Plante, qui a joué dans le CFL, qui m'a tout de suite, enseigné l'importance des special teams. Tu sais, à Garneau, j'étais un partant, mais quand même, je prenais vraiment beaucoup de fierté à jouer sur special teams. J'ai amené ça, cette mentalité-là aux États-Unis. Puis encore aujourd'hui, j'adore jouer special teams, que ce soit kick-off, punt, kick-off return, punt return, j'aime ça. Il y a moins, tu sais, d'aspect mental à jouer special teams. Tu sais, en défense, tu as un scheme à respecter. Sur special teams, c'est lui qui veut faire le jeu, va le faire la plupart du temps. Puis c'est ça, là, j'aimerais ça exceller encore là, pour Miami sur special teams.
Ouais, définitivement. Puis je te souhaite, on espère te voir dans l'uniforme des Dolphins, pas juste sur les unités spéciales, mais éventuellement au sein de l'unité défensive. Tu as mentionné tout à l'heure, bon, la déception de ne pas avoir été repêché finalement par les 49ers. Mais là, quand même, tu obtiens une opportunité là, en allant au camp des recrues des Dolphins. Si tu regardes, tu sais, le cheminement que tu as eu, c'est comme je le disais, tu as commencé ta carrière universitaire à Syracuse, tu voulais devenir un partant, tu as transféré, changé d'école. T'es allé à Memphis, là, t'es devenu un joueur partant, t'as connu une superbe saison 2023. Quand tu regardes en arrière, là, tu vois tout le chemin que tu as fait, là, du petit gars qui était au Cégep, maintenant, qui porte la casquette des Dolphins. Il te reste encore beaucoup de travail à faire, là, on s'entend là-dessus. Mais comment tu sens? Parce que c'est tout de même un accomplissement, un très bel accomplissement de ta part.
Oui, Didier, sérieusement, je suis sans mots encore ce matin, là. Ma mère aussi, t'sais, c'est une opportunité à laquelle j'ai rêvé depuis que j'ai commencé le football à 11 ans. Plus de 14 ans plus tard, j'ai eu des hauts et des bas dans ma carrière. Comme tu l'as dit, je suis arrivé à Syracuse, j'étais partant ma deuxième année, perdu le poste de partant à ma troisième saison, changé d'équipe, arrivé à Memphis, j'ai dû me prouver encore à un nouveau coaching staff, à des nouveaux teammates. Ça l'a très bien été dès ma première saison à Garneau, pas à Garneau, pardon, à Memphis. Je trouve que j'ai très bien fait en tant que middle linebacker. Comme tu l'as dit, j'ai connu probablement ma meilleure saison en carrière l'année passée avec Memphis où j'ai leadé l'équipe à 10 victoires, 3 défaites et un bowl game champ. Contre Iowa State, une game que je vais me souvenir de toute ma vie à Memphis, tu comprends? J'ai joué devant mes fans une dernière fois. Je suis très grateful de l'opportunité de Miami, de pouvoir continuer ma carrière aux États-Unis, puis d'avoir une chance de réaliser mon rêve vraiment. Je pourrais pas être plus content.
Ouais, et en plus de ça, c'est vraiment une semaine très occupée pour toi. Bon, t'as vécu toute la gamme des émotions avec le repêchage de la NFL, les Dolphins qui t'appellent. Là, il y a le repêchage de la Ligue canadienne mardi. À quel point tu vas porter attention à ça? Je sais qu'on s'est déjà parlé par le passé, puis t'avais dit, écoute, ça marche pas du côté de la NFL. Je suis ouvert à tenter ma chance du côté de la Ligue canadienne. Si je me trompe pas, le bureau de recrutement de la Ligue canadienne te classe dans le top 10 des meilleurs espoirs en vue du repêchage. Alors, est-ce que tu vas porter attention au repêchage de la Ligue canadienne? J'imagine que oui. Et ben, quels sont tes plans là pour ça?
Oui, non, c'est sûr que le repêchage de la CFL est mardi, si je ne me trompe pas. Puis, c'est
Exact.
une autre très belle opportunité. Comme je t'ai dit, Didier, jouer au Canada devant mes fans, ça serait une autre chose très intéressante pour moi. Mais mon focus est vraiment all-in avec les Dolphins, faire l'équipe, puis rester aux États-Unis. Est-ce que je vais regarder le draft de la CFL? Oui, certainement. J'ai eu beaucoup de conversations avec probablement toutes les équipes de la CFL. Écoute, comme tu dis, ils m'ont visionné dans la première ronde. Alors, je vais être attentif, ça c'est certain.
Ouais, ben écoute, on te souhaite la meilleure des chances, c'est sûr, avec les Dolphins de Miami. Je souhaite que tu sois en mesure ou que ce soit avec une autre équipe de la NFL. Mais une chose à la fois, concentre-toi sur le cas des recrues des Dolphins, puis on te souhaite d'être en mesure d'exceller. Jeff, tu as fait preuve de persévérance et comme je le disais tout à l'heure, tu sais, tu as tracé ton chemin, tu as quitté Syracuse afin de te joindre à Memphis. Tu avais des objectifs précis en tête, tu voulais être partant. L'objectif a été précis, a été atteint, je devrais dire plutôt. Tu voulais te joindre à une équipe de la NFL, ben là, tu as l'opportunité de le faire. Fait qu'on va te souhaiter la meilleure des chances. On espère que tu seras en mesure de jouer les dimanches dans la NFL, comme Mathieu Bergeron, comme Benjamin Saint-Just, comme Anthony Auclair, Laurent Duvernay-Tardif avant toi. Puis tu vas poursuivre la tradition de Québécois qui sont en mesure d'avoir une carrière, une belle carrière au sud de la frontière.
Oui, merci beaucoup Didier. C'est toujours un plaisir, là. Puis, hopefully, on va se reparler en septembre quand je serai là avec l'équipe officiellement.
Ben oui, écoute, on souhaite, puis nous, ça va toujours faire un plaisir de t'avoir en tant qu'invité au podcast de Sac du Cœur. Alors, Jeff, on te souhaite la meilleure des chances. Puis encore une fois, je te remercie d'avoir accepté mon invitation.
Merci Didier, bonne journée.
Bonne journée à toi aussi. Alors, c'était Jeff Quentin-Harcourt, ancien secondeur de ligne de l'Université à Memphis. qui va tenter sa chance à compter du 10 mai lors du camp, le mini-camp des recrues des Dolphins. Il va essayer de se mériter un contrat avec la formation de Miami. Alors, on espère qu'il sera en mesure de se tailler une place et d'impressionner le groupe d'entraîneurs des Dolphins. Mais le repêchage de la NFL est terminé. Ça a commencé jeudi soir avec la présentation de la première ronde à Détroit. Il y avait plus de 275 000 personnes qui étaient sur place à Détroit pour assister au repêchage. C'était vraiment fou. Renaud Bourbonnais va maintenant se joindre à moi. Au total, c'est plus de 700 000 personnes qui sont allées à Détroit pour assister au repêchage. En tout cas, c'est vraiment incroyable. Tout ça, l'engouement qu'il y avait à Détroit. Finalement, c'est la suite de la belle saison, Renault, que les Lions ont eu en participant à la finale de l'Association nationale. Puis même les Lions ont eu un beau repêchage. Dis-moi, là, en tant que fan de football, là, comment tu as réagi quand on nous montrait les images à Détroit, de la quantité de gens qu'il y avait pour assister au repêchage? C'est vraiment incroyable.
Ouais, c'est pas tous les jours que le cirque passe à Détroit, donc je pense que les gens ont profité là-bas. Puis après la première ronde, là, je sais pas si tu te rappelles, mais du moins vers la fin de la première ronde, Roger Goodell était monté sur l'estrade pour annoncer aux gens qu'ils avaient battu un record pour le nombre de personnes présentes pour une première ronde du repêchage de la NFL et qu'il leur en restait vraiment pas beaucoup s'ils voulaient battre le record. Ils l'ont pulvérisé le lendemain. En se présentant encore les deux premiers jours, du moins, c'était complètement rempli à Détroit. Donc oui, c'était une belle ambiance, puis c'était le fun de voir ça parce que on le sait, hein, à Détroit, ça a été des années et des décennies même, j'ai envie de dire, extrêmement difficile pour les Lions. Puis ça a été une fin de saison crève-cœur aussi pour les Lions en finale de la Nationale contre les 49ers. Puis finalement, ben, on voit, les gens sont toujours au rendez-vous, sont toujours excités pour leur équipe. Puis ils en ont pour leur argent, je pense, pour les prochaines années parce que les Lions ont une bonne équipe.
Ouais, du côté d'Atlanta, ben, les gens se sont déplacés également afin d'assister au repêchage dans le stade des Dolphins. On a vu les réactions sur les réseaux sociaux des partisans des Falcons qui étaient incrédules, tout comme la majorité du monde de la NFL, des gens qui couvrent la NFL, les amateurs de football, par la sélection de Michael Penix au 8e rang au total. On n'a pas le choix de commencer notre analyse du repêchage en parlant de cette sélection de Penix par les Falcons. Tout le monde a été surpris. C'est d'une certaine façon incompréhensible, étant donné que les Falcons avaient mis ce contrat, quoi, il y a un mois auparavant, lors de la période des joueurs autonomes, Kirk Cousins, on lui a donné un contrat de 90 millions. Là, Michael Penix s'amène à Atlanta. Tout d'abord, ça a été quoi ta réaction? Je sais que tu as été surpris également, mais qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu vois un scénario où, finalement, c'est peut-être une bonne idée qu'a eu le DG des Falcons, Terry Fontenot?
Ben, en fait, moi, je le vois en deux temps. Le fait de prendre Michael Penix, qui était vu là, dans l'ensemble comme un choix peut-être en fin de première ronde, mais pour la majorité des gens qui étaient vus comme un choix de deuxième ronde là, au poste de corps arrière. Bon, tu l'as dit, il y a un contrat de 4 ans qui a été donné à Kirk Cousins. Le fait d'avoir repêché Penix en première ronde donne droit à une 5e année d'option aux Falcons, un peu comme ça avait été le cas avec Jordan Love, rappelle-toi, il y a quelques années avec les Packers. Donc, le fait de l'avoir repêché en première ronde ne me dérange pas vraiment. C'est le fait qu'on soit allé avec le 8e choix au total, qu'on n'ait pas plutôt pris le temps de faire une transaction pour monter plus tard dans la ronde et de faire la sélection. Ça, c'est au moment où la sélection a été faite que je me suis dit ça. Mais quand ensuite j'ai vu McCarthy sortir au Minnesota, que j'ai vu Bo Nix sortir 12e à Denver, je me suis dit, mais la réalité, c'est que est-ce qu'il aurait encore été là plus tard, Michael Penix? Parce que visiblement, les équipes se sont lancées sur les corps arrière. Les 6 des 12 premiers choix étaient des passeurs. Donc, ça en dit long sur la nature du repêchage de cette année. Maintenant, il y a des réponses qu'on ne trouvera jamais à certaines questions. C'est-à-dire, si les Falcons ne prennent pas Michael Penix, est-ce que les autres équipes s'empressent aussi vite de prendre leur corps arrière? L'autre question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas contacté Kirk Cousins avant? Tu as vu sûrement les informations qui ont sorti par la suite des journalistes qui ont parlé à l'agent de Kirk Cousins qui disait, nous, on a été avertis de ce qui se passait pendant que les Falcons étaient en train d'attendre leur tour pour repêcher. Donc, quand ils étaient ce qu'on appelle « on the clock ». Et on a vu aussi le bureau des Falcons en train d'expliquer au propriétaire Arthur Blank la décision. On n'a pas pu entendre ce qu'ils se disaient, mais on voyait qu'il y avait peut-être un petit peu d'incompréhension dans la discussion. Donc, je pense que c'est la façon dont on a géré la situation.
Les gens sont partis avec ça sur les réseaux sociaux. C'est ça, les gens sont partis avec ça sur les réseaux sociaux, là, l'image de Terry Fontenot en conversation avec Arthur Blank. Mais là, bon, comme tu l'as dit, on n'entendait pas
On
qu'est-ce
n'entend
qui
pas.
se disait. C'est ça, là, ce qu'il parlait vraiment là, de la sélection de Michael Penix, ce qu'il tentait vraiment de lui expliquer tout ça, je ne sais pas. Mais ce que je sais avec certitude, c'est que Arthur Blank, c'est lui là, qui paye le salaire des joueurs. Okay? Donc, c'est lui qui s'est engagé à donner 90 millions de dollars à Kirk Cousins. D'aucune façon, je crois qu'il s'attendait à ce que son équipe repêche Michael Penix au 8e rang. On a dû avoir des conversations avant le repêchage, j'ose croire. Mais depuis que Terry Fontenot est le DG des Falcons, Renault, c'est comme s'il essaie d'assembler une équipe de fantasy football. Faut que tu construis une équipe de football. Puis on avait d'autres lacunes du côté des Falcons. Puis je sais qu'on a adressé ces lacunes-là, notamment au niveau de la ligne défensive lors des autres rondes. Mais toutefois, au 8e rang, on avait l'opportunité de repêcher les meilleurs joueurs disponibles au repêchage en défense. Mais on voit, bon, choix de 2e ronde, on est allé à la position de plaqueur. 3e ronde, Braylon Trice, ailier défensif, ancien des Huskies de l'Université de Washington, donc un coéquipier de Michael Penix. C'est un bon joueur. Je crois pas toutefois que Trice est le genre de joueur qui va réussir 10, 12, 15 sacs à tous les ans,
Mais non.
sacs du quart. Donc, on a tout de même adressé des besoins qu'on avait plus tard. Il y a 7 rondes au repêchage, mais ça fait pas de sens. Peu importe la façon dont on regarde ça, la sélection de Penix, ça fait pas de sens. Faut pas oublier, les Falcons, c'est une des équipes qui aurait pu mettre sous contrat, du moins faire une offre de contrat à Lamar Jackson l'année dernière durant la saison morte. Ils ne l'ont pas fait. On a roulé les dés avec des carrières qui manquaient de talent pour être carrière partant, notamment avec Desmond Ridder la saison dernière. On a jugé qu'on n'avait pas besoin de Bill Belichick, alors que Belichick était intéressé afin de devenir l'entraîneur-chef. On est allé avec Ryan Morris. Je souhaite que Ryan Morris se connaisse du succès. Mais tout ça pour dire, je ne peux pas donner bénéfice du doute à l'organisation des Falcons, Renault, parce que cette équipe-là, ça fait 8 ans qu'elle n'a pas participé aux éliminatoires, là. Depuis la déconfiture au Super Bowl contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, ça va pas bien à Atlanta. Et là, on vient de créer une très mauvaise situation au sein de l'équipe, parce que durant les entraînements, là, les joueurs ils vont voir Penix en action. Il a tout un bras. Si Kirk Cousins ne joue pas bien, qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver? Les joueurs vont commencer à
Non,
se dire,
non,
hey,
ça
pourquoi
va
on n'envoie
crier.
pas Michael Penix en mêlée? Oui, là, Kirk Cousins revient d'une blessure, d'une grave blessure au tendon d'Achille. Il est âgé à la mi-trentaine. J'ai bien hâte de voir ça, mais j'ai l'impression qu'on continue là, du côté d'Atlanta. Finalement, qu'est-ce qu'on a fait depuis lors des 3 dernières années? On a été incapable de participer en éliminatoire, aux éliminatoires. Peut-être que ça va se poursuivre. Mais écoute, on a plusieurs sujets au menu, notamment les Bears de Chicago qui, eux, détenaient le tout premier choix du repêchage. Sans surprise, ils ont arrêté leur sélection sur Caleb Williams, la carrière de l'université USC. Il est très talentueux. Bon, sinon, il n'aurait pas été sélectionné au tout premier rang du repêchage. Mais qu'est-ce que tu as pensé justement de la sélection de Penix et du reste du repêchage de Chicago?
Dans le cas des Bears, j'ai bien aimé ce qu'on a fait. Évidemment, difficile de cracher sur la transaction qui a été complétée l'année dernière, hein, après coup. Un an plus tard, ça a l'air d'un véritable coup de génie. Les Bears qui se sont débarrassés du tout premier choix l'an dernier ont hérité de celui des Panthers cette année qui était le premier au total. Et là, on a vraiment rempli les coffres. Puis c'est fou de voir. Je prends par exemple l'an dernier, rappelle-toi, avant le repêchage, on pensait aux Texans de Houston qui avaient le deuxième choix au total. On se disait c'est une équipe qui va passer encore quelques années dans le fond de la cave. Finalement, on complète une transaction pour aller chercher CJ Stroud et Will Anderson au haut du repêchage. Puis les Texans ont vraiment bien fait l'année dernière. Ils ont même gagné un match éliminatoire alors qu'on pensait même pas qu'ils pouvaient penser aux éliminatoires. Dans le cas des Bears, je trouve que c'est un alignement qui change beaucoup et rapidement depuis 2 ans aussi. Bon, c'est sûr que l'année dernière, on n'a pas connu une grande saison, surtout la première moitié de saison où l'attaque traînait tellement de la patte qu'on avait de la difficulté à faire quoi que ce soit. Mais les dollars qu'on a investis en défense en deuxième moitié de saison, oui, c'est vrai à une période où les matchs étaient peut-être moins importants, mais quand même, il y a des joueurs qui se sont levés en défense. Et là, cette saison morte, c'est en attaque qu'on fait les changements complets. On amène Keenan Allen, on amène un DeAndre Swift dans le champ arrière. Et là, on a la chance de mettre la main sur un Caleb Williams et sur un receveur de premier plan. En Rome Odunze au 9e choix au total. Personnellement, je ne pensais pas qu'ils allaient aller avec un receveur, étant donné qu'ils comptent déjà sur DJ Moore et Keenan Allen. Ils ont décidé de le faire quand même. Tu sais quoi, j'aime ça quand même. C'est un choix de profondeur. Ça va ajouter du talent dans cette attaque-là des Bears. Puis il faut dire aussi qu'un gars comme Keenan Allen, il revient d'une blessure importante et c'est un gars qui commence à avancer en âge. Donc, est-ce qu'il va être sur la pente descendante dès sa première année à Chicago? C'est pas impossible. Donc, je pense qu'on a pris une police d'assurance ici. Donc, oui, je suis content du travail fait par Chicago, particulièrement en première ronde.
Personnellement, moi, j'ai pas aimé la sélection de Odunze.
OK.
J'adore Rome Odunze. C'est un joueur spectaculaire avec les Huskies de l'Université de Washington. Il était le receveur numéro un de Michael Penix. Il est capable de les attraper 50-50, il les gagne. Okay? C'est pas 50-50 lorsque tu lances le ballon dans sa direction. Il va chercher régulièrement le ballon à son plus haut point. Il réussit des réceptions acrobatiques avec régularité. Mais toutefois, du côté des Bears, à cause de qu'est-ce que tu as mentionné, le fait qu'on a mis la main sur Keenan Allen. DJ Moore a un gros contrat. Ça fait beaucoup, mais beaucoup d'argent qui va être investi à la position de receveur avec l'ajout de Odunze. Mais en plus de ça, tu joues à Chicago. OK? Au mois de décembre, il va y avoir de la pluie, du vent, de la neige, OK? Une mauvaise température. Est-ce qu'on va réellement être capable de lancer le ballon assez souvent pour satisfaire ces trois receveurs de passe-là? C'est ça, j'ai des problèmes avec ça. Surtout que les Bears. Ben, la défense a bien terminé la saison. La défense des Bears a été une force. Puis on aurait pu repêcher un joueur en défense seulement afin justement d'ajouter à ce qui est déjà une force du côté de Chicago. Puis quand on regarde les autres rondes, ben, on n'est pas allé chercher justement un joueur qui pourrait avoir un impact dans le front de la défense
Exact.
immédiatement dès le mois de septembre. Donc, moi, la décision d'en repêcher Odunze, peut-être que ça va s'avérer avec le temps être une bonne décision, hein, parce que c'est ça, avec le repêchage, on critique rapidement. Mais réellement, on a une réponse seulement 2, 3 ans plus tard.
Ben
Mais
oui.
j'aurais pas opté pour un receveur de passe avec la deuxième sélection en première ronde de Chicago.
Pour ajouter à ce que tu dis, surtout qu'au 9e rang, Chicago aurait pu avoir le luxe de prendre le premier joueur défensif qui finalement est sorti au 15e rang à Indianapolis, mais on avait le choix. C'est qui le joueur défensif que tu aimes le plus dans le repêchage? Il est à toi. Donc, pour cette raison-là, moi aussi, on dirait que ça m'a surpris quand Ondunze a été pris. Au final, je pense que, étant donné que c'est un joueur de grand talent, comme tu as dit, il va trouver le moyen de se démarquer à Chicago. Mais sur le moment, oui, ça m'a surpris de le voir sortir.
Ah, imagine-toi si on avait ajouté un Byron Murphy ou Dallas Turner à notre front en défense. Cette défense-là qui est déjà bonne, ben là, elle aurait le potentiel peut-être de devenir dominante. Mais en tout cas, bon, comme je l'ai dit, c'est le temps qui va nous dire là, si ça a été une bonne sélection. Mais je ne suis pas certain. Du côté de Chicago, là, ça me laisse beaucoup de points d'interrogation, cette sélection de Rome Odunze. Les carrières ont été une des histoires de la première ronde. Écoute, c'est quoi, c'est 6 carrières ont été repêchées en première ronde.
612.
Ouais, 612, c'est ça, lors des 12 premiers choix. Donc, la moitié des 12 premières sélections ont été des carrières. Ça a été un repêchage, une première ronde qui a été dominée par les joueurs en attaque. Donc, on va parler des autres carrières. Tout d'abord, au deuxième rang, les Commanders de Washington, l'équipe de Benjamin St-Juste. Bon, on a repêché, sans surprise, Jaden Daniels, un récipiendaire du trophée Heisman de la saison dernière. Double menace, un produit de l'université LSU, très explosif, très rapide. Qu'est-ce que tu as pensé rapidement, justement, du fait que les Commanders ne se sont pas cassés la tête? On avait besoin de carrière qui a le potentiel de devenir notre quart de concession et le visage de l'équipe de Washington.
Ouais, ben écoute, ça fait longtemps qu'on n'a pas été excité de voir une attaque des Commanders de Washington sur le terrain. Ça a été difficile au cours des dernières années. Puis bon, l'an dernier, hein, on comptait sur Sam Howell, qui n'a pas fait un travail horrible, là, je tiens à le dire quand même. Il travaillait derrière une ligne à l'attaque qui avait énormément de difficultés. Finalement, on a décidé de passer un autre appel, de l'envoyer à Seattle dans une transaction. Et on fait confiance à Jaden Daniels. Puis c'est pas sans nous rappeler. Il y a 12 ans, quand les Redskins, à l'époque, Didier, avaient repêché Robert Griffin III, un autre carrière double menace sur le terrain, un autre carrière qui a été repêché deuxième au total par Washington. Et moi, sans dire que ce sont le même type de joueurs, je pense qu'il y a quand même des différences à faire entre les deux. Jaden Daniels n'a pas la carrure aussi frêle, selon moi, là, qu'un Robert Griffin III avait à l'époque. Par contre, il fait quelque chose que Robert Griffin III fait, et ça m'inquiète un peu. Je trouve que parfois, il a tendance à ne pas se protéger ou encaisser des gros coups. D'ailleurs, je pense que tu l'as mentionné pendant le repêchage. Et moi, si j'étais, bon, je ne veux pas dire propriétaire à Washington parce que ce n'est pas les mêmes propriétaires qu'il y a 12 ans quand Robert Griffin a été repêché, mais si j'étais dans l'organisation de Washington, j'irais faire un tour vers Jaden Daniels, puis je vais dire c'est la première chose qu'on va apprendre à faire maintenant dans la NFL, c'est se protéger parce qu'on ne veut pas un autre cas à la Robert Griffin avec les Commanders, ça c'est sûr et certain.
Ouais, non, c'est vrai, parce que Jaden Daniels, des fois, il essaie de courir, mais tu sais, le fait, bon, il pèse quoi, 210 livres, ça a été son poids
Ouais.
au combine, au camp d'évaluation de la NFL, mais on le voit, il est grand et mince, mais malgré tout, ça l'empêche pas, des fois, d'essayer de courir comme s'il était Derrick Henry. Puis là,
Oui.
je me souviens du match contre Alabama, il s'est fait frapper, il doit apprendre à sortir à l'extérieur des limites du terrain, à pas absorber ses contacts inutiles, parce que du côté de la NFL, c'est un bon point que t'amènes. Il va pas durer, il va finir par se blesser s'il est tout aussi téméraire, s'il demeure téméraire comme il l'a été à LSU. Alors, je suis certain du côté des entraîneurs des Commanders, on va lui parler de ça, mais les joueurs qui sont pas capables de se débarrasser des fois là, de cette mauvaise habitude,
Non.
c'est pas sur le terrain en tant qu'arrière, t'aides pas ton équipe, puis on veut pas avoir Daniel subir une blessure comme Anthony
Ben
Richardson, il
non.
s'est blessé l'année
Ben, c'est
dernière
ce que
très
j'allais dire.
tôt. Ben voilà, puis là, on a perdu sa saison recrue du côté des Colts. Alors, du côté des Commanders, c'est certain on va pas vouloir que ce genre de choses se produisent. Maintenant, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre sont toujours à la recherche d'un carrière afin de remplacer Tom Brady. Et puis là, ben, c'est terminé, bon, bien sûr, pour Mac Jones, qui porte maintenant les couleurs des Jaguars de Jacksonville. Drake May, on a arrêté notre sélection sur le carrière de North Carolina. Drake May est très jeune, est âgé de 21 ans seulement. Alors, Jacoby Brissett devrait être le carrière partant au début de la saison du côté des Patriots. Mais on va voir comment May va performer lors du camp d'entraînement, lors des matchs préparatoires. Ben, c'est un carrière qui a un physique imposant. Il est capable de courir malgré le fait qu'il n'est pas reconnu comme étant une double menace. Toutefois, du côté de May, moi, j'ai vraiment des questions concernant la précision de ses passes parce qu'il marche par séquence. Il peut connaître une excellente première demi. Là, en deuxième demi, il y a des passes qui sont 10 pieds par-dessus la tête de ses receveurs de passes. Donc, il peut marcher par séquence durant la même rencontre. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est son jeune âge. Âgé seulement de 21 ans, surtout comparé à d'autres cas qui ont été repêchés, comme Michael Penix, qui est déjà âgé de 24 ans. Donc, on se dit qu'il a un grand potentiel du côté des Patriots, qu'on va le développer. Qu'est-ce que tu penses justement de la sélection de May par la Nouvelle-Angleterre?
Ouais, puis visiblement, les Patriots l'aimaient beaucoup parce qu'il y a eu beaucoup de ragots au cours des jours qui ont précédé le repêchage, même le jour même du repêchage. Donc, il y avait beaucoup d'équipes qui étaient intéressées à transiger pour aller chercher le troisième choix total afin de faire l'acquisition de Drake May, justement. Puis, à voir à la vitesse à laquelle les carrières sont partis, je ne suis pas nécessairement surpris des informations qu'on entendait à ce propos-là. Ceci étant dit, je pense que dans le cas de Drake May, c'est une situation où on va être gagnant d'avoir un vétéran comme Jacoby Brissett devant lui pour peut-être prendre quelques matchs, quelques semaines, voire peut-être même une année complète avant de l'envoyer sur le terrain. Tu l'as dit, c'est un jeune carrière. Et si on regarde au cours des dernières années, les jeunes carrières qu'on a emmenés dans la ligue, ben on a de très beaux modèles de joueurs qui ont dû patienter avant d'obtenir le temps de jeu. Patrick Mahomes a attendu un an au complet. Lamar Jackson a attendu à peu près le deux tiers d'une saison à son époque. Et quand on regarde de l'autre côté du spectre, et c'est pas complètement parfait, oui, il y a des contradictions dans tout, mais on regarde un joueur, par exemple Sam Darnold, qui est un autre qui est arrivé extrêmement jeune dans la NFL. Si je me trompe pas, il avait 20 ans quand il est arrivé dans la NFL, Sam Darnold. On l'a mis comme partant immédiatement avec les Jets, qui n'avaient pas une excellente équipe autour de lui. Et sans dire qu'il serait devenu une super vedette si ce n'était pas de ça. Je pense quand même qu'il y avait un meilleur potentiel que ce qu'on a obtenu finalement pour Sam Darnold dans la NFL. Donc, dans le cas de Drake May, tu l'as dit, il y a certaines passes des fois qui manquent de précision, mais c'est pas qu'il n'est pas capable de les faire parce qu'on le voit dans d'autres moments être capable de livrer la marchandise sur des gros jeux. Donc, au niveau de la constance, peut-être travailler avec le groupe d'entraîneurs des Patriots, prendre notre temps. C'est un troisième choix au total. Ça passe pas à tous les ans où on réussit à mettre la main sur un carrière de grande qualité ou du moins avec autant de potentiel qu'un gars comme Drake May. Donc oui, je serais patient avec lui.
Maintenant, du côté des Vikings du Minnesota, ben, on a eu deux choix de première ronde avec notre première sélection en première ronde. On a repêché le carrière J.J. McCarthy, produit des Wolverines de Michigan. Bon, on se souviendra au mois de janvier dernier, il avait mené les Wolverines au championnat national au niveau du football universitaire américain. Mais toutefois, McCarthy, lorsqu'on regardait jouer avec les Wolverines, on lui demandait pas de faire beaucoup de choses, hein, étant donné que Jim Harbaugh, bon, misait sur une excellente attaque au sol. Puis c'est là que je me dis, on lui a jamais demandé de transporter l'attaque. Donc, est-ce qu'il va être capable de le faire au Minnesota? C'est sûr qu'on va pas tenter de passer le ballon pendant une soixantaine de fois à chaque semaine là, du côté des Vikings. Mais quand même, tu sais, moi, lorsque on repêche un carrière en première ronde, je me dis, est-ce que ce joueur-là a le potentiel au moins de faire partie du top 10 des carrières du côté de la NFL? Moi, je suis pas convaincu que McCarthy a ce potentiel-là. Mais quand tu regardes, bon, l'enrobage du repêchage des Vikings avec notre deuxième choix de première ronde, on était cherché, ce qui est considéré comme étant un des meilleurs chasseurs de quart du repêchage en Dallas Turner, ancien d'Alabama. Mais toi, est-ce que tu crois que les Vikings ont mis la main sur un carrière qui pourra faire partie du top 10 de la NFL peut-être dans 3 à 4 ans? Là?
Je suis pas 100% vendu sur le cas McCarthy. Je me rappelle le soir au mois de janvier où les Wolverines ont gagné le championnat national, le mot qui se passait sur McCarthy, c'était que ce serait un joueur repêché en dehors de la première ronde. Peut-être qu'une équipe allait prendre une chance en fin de première ronde sur lui, mais que règle générale, c'était un espoir qu'on voyait en dehors de la première ronde. Ben, d'une façon quelconque, durant la période de recrutement, c'est ce que j'appelle en culotte courte, donc pendant le combine, pendant la période donc où il n'y a pas de football, ben il est passé d'un choix extérieur de la première ronde à un choix top 10. Et moi, c'est le genre de choses qui me laisse tout le temps un petit point d'interrogation quand je vois des joueurs, surtout des carrières, monter de la sorte. Ceci étant dit, les Vikings avaient besoin de faire quelque chose. Je parlais tantôt des équipes qui ont parlé avec les Patriots. Bon, dans les rumeurs, il y avait justement le nom des Vikings qui peut-être auraient aimé monter au repêchage pour faire la sélection d'un Drake May. Et ils ont transigé avec les Jets, d'ailleurs, pour repêcher J.J. McCarthy, monter d'un rang et repêcher McCarthy au 10e rang total. Moi, je suis pas convaincu par McCarthy, surtout qu'avec Michigan, tu l'as dit, de un, on lui demandait pas de faire la totale pour l'attaque, mais de deux, il avait une très, très bonne équipe autour de lui, visiblement une machine de guerre prête à aller jusqu'au championnat et à gagner ce championnat national-là. Donc non, je être les Vikings, on dirait que je serais un peu nerveux, mais j'ai l'impression qu'on va avoir des réponses assez rapidement parce que les Vikings, contrairement aux Patriots, ben ils n'ont pas fait nécessairement de recrutement de vétérans ou du moins de vétérans qui puissent être là et espérer donner du succès à l'équipe. Le temps de développer McCarthy, donc j'ai l'impression qu'on risque de le voir rapidement, et c'est un autre gars que moi, personnellement, j'aurais voulu qu'on prenne du temps avant de le voir sur le terrain.
Ouais, cette section-là, ça fait penser à un carrière que les Vikings ont repêché, quoi, il y a peut-être 10-12 ans, Christian Ponder. Christian Ponder. Ouais, en première ronde, ça n'a jamais débloqué, finalement, il a été un flop au repêchage. En fait, tu sais, la section de 6 carrières lors des 12 premiers choix, les équipes sont désespérées pour avoir des carrières, mais justement, ça me fait penser, tu sais, c'est arrivé, là, il y a eu des années où est-ce que justement, il y a eu plusieurs carrières repêchées en première ronde, puis les équipes sont tellement désespérées, mais ces joueurs-là, ben, finalement, ils ont été repêchés trop tôt, comme Christian Ponder, comme Jake Locker avec les Titans du Tennessee.
Blaine Gabbert.
Ils ont été des flops. Ouais, Blaine Gabbert, ben oui, il y a des gens qui osaient, qui disaient qu'il y avait un débat à l'époque entre Blaine Gabbert et Cam Newton. Même à l'époque, je me disais, ouais, ils sont fous, ces gens-là. Cam Newton avait transporté les Tigers d'Auburn. Ouais. Donc, c'est ça, le fait que les équipes sont désespérées, puis les chiffres ne mentent pas, hein, tu sais, quoi, c'est 50% des carrières qui sont repêchées en première ronde, je crois que c'est pas même plus, qui deviennent des flops. Donc, j'ai hâte de voir ça. Est-ce qu'on n'a pas étiré l'élastique un peu du côté des Vikings en sélectionnant J.J. McCarthy si tôt? Je suis comme toi, là. Moi, j'ai vraiment beaucoup de réserves face à cette sélection. Maintenant, le dernier carrière qui a été repêché en première ronde, mais ça a été Bo Nix, l'ancien des Ducks de l'Université d'Oregon, au 12e choix au total de la première ronde par les Broncos de Denver dans les semaines précédant le repêchage. Ben, on avait jumelé le nom de Bo Nix aux Broncos, qui eux, ils n'avaient pas le choix de repêcher un carrière. De ça qu'ils ont ce contrat, je ne me trompe pas, c'est Jarrett Stidham. Alors, Bo Nix a été très productif avec les Ducks. Sa carrière universitaire avait mal commencé à l'époque, bon, lorsqu'il jouait dans le SEC. Est-ce que tu as confiance que Bo Nix, encore une fois, là, c'est un peu la même question que je t'ai posée au niveau de J.J. McCarthy, peut se développer et devenir en carrière du top 10? Il va miser sur un excellent entraîneur en Sean Payton, qui est un gourou des carrières. Il y a des gens qui ont comparé Nix à Drew Brees avant le repêcheur. Moi, je suis pas prêt d'aller jusque-là. Je trouve que c'est beaucoup trop pour moi en termes de comparaison. Il a complété 77% de ses passes avec les Ducks la saison dernière. Mais tu vois, c'est une attaque qui lui demandait de compléter beaucoup de passes de façon horizontale. Est-ce que ça va fonctionner du côté de la NFL? J'ai des doutes. Qu'est-ce que tu penses de cette sélection-là, là, de Bo Nix. Ça a été le dernier choix, le dernier carrière repêché en première ronde. Puis après ça, on a dû attendre en cinquième ronde avant de voir un autre
Ouais.
carrière être sélectionné en passant.
Ouais, écoute, je suis pas vendu 100% à la cause de Bo Nix non plus. Je pense que tu as tes réserves également. Ceci étant dit, je l'ai mentionné en début d'épisode, moi je pense que le fait qu'un Michael Penix et un JJ McCarthy sortent aussitôt a sonné la cloche aux Broncos de dire on ne peut pas attendre. Si on attend, il y a quelqu'un d'autre qui va sauter sur lui et là on va être pris avec. Parce qu'après Bo Nix, il y avait vraiment un écart là, au niveau du talent. Ben, tu l'as dit, le prochain carrière est sorti en cinquième ronde. Donc, je suis pas convaincu. Et surtout, moi, tu parles de Sean Payton qui est un gourou des carrières. Mais quand est-ce que Sean Payton a développé lui-même un carrière? C'est ça aussi que je me questionne. Comme entraîneur-chef avec les Saints, rappelle-toi, Drew Brees est arrivé, mais Drew Brees avait quelques années derrière la cravate avec les Chargers. C'est une blessure un peu qu'il avait chassée de San Diego à l'époque. C'était retrouvé en Nouvelle-Orléans. Par la suite, bon, on a eu la tentative avec Russell Wilson à Denver l'an dernier. On sait un peu où est-ce que c'est allé. C'est pas lui qui l'avait recruté, mais quand même. J'ai hâte de voir comment est-ce que Sean Payton va pouvoir se débrouiller avec un jeune. On sait que c'est un entraîneur qui a ce qu'on appelle la fuse courte, donc parfois a tendance à perdre patience, mais je suis curieux de voir comment ça va se passer avec Bo Nix. Mais tu as mentionné, tu as oublié un carrière qui était sous contrat avec les Broncos, Didier, Zach Wilson, qui a été échangé
Ah,
à Denver la semaine dernière.
ouais, ils
Mais
l'ont acquis
je te
quelques jours
permets de
avant le
l'oublier pour le
repêchage.
moment.
Ouais,
Ouais, je te permets de faire comme si ça n'existait pas.
c'est pas un grand oubli. C'est pas un grand oubli, là.
Non, non, non.
Il y a pas grand espoir que Zach Wilson va être en mesure de relancer sa carrière. En tout cas, moi, j'en ai aucun. J'en ai aucun. C'est la
Non, non,
dernière
non,
fois, je
moi non
pense,
plus.
qu'on va mentionner son nom au cœur du podcast. On a dû en parler tellement de fois au cours de la
Ouais.
dernière saison, là. Ça en était ridicule. Mais je vais remonter plus loin dans le temps, parce que c'est vrai que ce que tu disais, c'est à propos de Peyton avec les Saints en termes de développement de carrière. Mais je pense qu'on va remonter plus loin dans le temps. Lorsqu'il était coordonnateur à l'attaque des Cowboys, c'est lui qui était
Ouais.
coordonnateur lorsqu'on a mis sous contrat Tony Romo. Tony Romo n'avait pas été repêché, mais on l'a développé à Dallas. Puis, écoute, même s'il n'avait pas été repêché, il a connu une grande carrière, Romo. Alors, puis à l'époque, moi, j'avais joué contre Tony Romo à l'université. Lorsque je jouais à l'université de Toledo, on avait joué contre Eastern Illinois. Puis, lors de la semaine de préparation, notre entraîneur d'opposition au niveau de la ligne défensive, tu sais, nous avait parlé de Romo. Il était candidat au trophée Walter Payton, qui est en division 1-2A à l'époque, était remis. C'était l'équivalent, finalement, du trophée Heisman au niveau du football 1-2A. Là, on se disait, ben non, c'est une équipe 1-2A, de quoi il parle? Pourquoi il nous parle autant du carrière? Ben, c'est quoi? Il a passé pour plus de 300 verges, on a gagné le match, ben, il achetait du temps. Tout ce qu'on a vu Tony Romo dans la NFL, on l'avait vu. Donc moi, c'est pour ça, lorsqu'il s'était amené en relève lors d'un match du lundi soir, c'est à Drew Bledsoe, en relève à Drew Bledsoe à l'époque. Bledsoe était carrière des Cowboys. Puis moi, je savais immédiatement c'est qui Tony Romo. Puis je me disais, hey, ce gars-là, il est talentueux. Puis regarde, il m'a donné raison, il a connu une belle carrière du côté de la NFL. Mais ça, pour se dire, il faut remonter jusqu'à Tony Romo réellement, trouver une carrière que Sean Payton a développée. Alors, on va voir, on n'avait pas le choix de repêcher un carrière, comme tu l'as dit, avec seulement Zach Wilson et Jarrett Stidham. Stidham est-il encore là? Stidham est encore là, je crois, à Denver, hein, sous
Je
contrat.
pense que Stélim est encore
Ouais, en tout cas, peu importe, lui aussi, on peut pas miser sur lui
là.
afin de devenir un carrière
Non.
partant. Mais Bo Nix, il faut dire, il a 40 départs en carrière. Au niveau du
Oui.
football universitaire, tu sais, il a roulé sa botte, il a une longue carrière universitaire. Donc, il est prêt, possiblement, mentalement, à être partant dès le mois de septembre. Alors ça, au moins, c'est un positif, de son côté. On va y aller rapidement, parce qu'il nous reste tout de même quelques sujets. La sélection de Brock Bowers par les Raiders de Las Vegas, qui, eux, étaient à la recherche d'un carrière. Je pense que ça, c'est vraiment une des équipes qui a été surprise par la sélection de Michael Penix par Atlanta. Parce que du côté des Raiders, il y a des rumeurs comme quoi qu'on avait Penix dans notre mise, mais malheureusement, il ne s'est pas rendu à la sélection de Las Vegas. On a sélectionné Brock Bowers. Moi, j'ai toujours de la misère lorsqu'on repêche tôt des idées rapprochées, malgré le fait que Bowers, écoute, il est tellement talentueux. Lorsqu'il était en santé, il était possiblement le meilleur joueur du football universitaire américain. Avec Jaden Daniels, pour moi, en tout cas, parce qu'en santé, il est vraiment toute une arme. Il est très explosif à la position d'ailier rapproché. Puis, en fait, c'est un receveur de passe format géant à la Travis
Ouais.
Kelce.
Ouais, ben complètement. Puis comme toi, moi, je me garde des réserves sur les ailiers rapprochés, repêchés aussi haut. Bon, Kyle Pitts, il y a quelques années à Atlanta, ce qui était le début
On
là, de la
attend
partie
toujours.
fantasy football
Ouais.
des Falcons. Mais si on remonte un peu, il y a quelques années aussi, là, à l'intérieur du top 10, si je ne me trompe pas, ou du moins en première ronde, les Buccaneers avaient sélectionné O.J. Howard, qui finalement avait tout hein, pour réussir dans la NFL, un physique de dieu grec, était énorme, courait
Ah oui,
à une
c'est
bonne vitesse
vrai.
pour son physique. Finalement, il a roulé sa bosse à Tampa Bay, a fait un tour à Buffalo à un certain moment aussi, mais ça n'a jamais été un joueur d'impact. Donc, ça m'a surpris un peu de voir les Raiders y aller, quoique on le savait que quelqu'un prendrait Brock Bowers quelque part en première ronde, et probablement dans la première moitié de la première ronde, c'est arrivé. Mais ce qui m'a surpris avec les Raiders aussi, c'est que l'an dernier, rappelle-toi, en deuxième ronde, on a fait la sélection d'un ailier rapproché, Michael Mayer. Et
Oui.
immédiatement, ben, on réplique l'année d'après en allant combler ce qui, au final, est-ce que c'est vraiment un besoin pour les Raiders? Je ne le sais pas. Et surtout, les Raiders, ils en ont des besoins parce que ce n'est pas une équipe de grands talents sur le terrain. Donc, j'ai été surpris par cette sélection-là de la part de Las Vegas. Et surtout, je sais que le front office, le bureau, les dirigeants ont changé du côté de Las Vegas, mais quand même, je me permets de le dire, au cours des dernières années, ça a été extrêmement difficile au repêchage pour cette équipe-là, particulièrement en première ronde. On a eu beaucoup de flops. J'espère pour eux que ça ne va pas se poursuivre dans cette veine-là.
Ouais, j'ai l'impression du côté des Raiders, le fait que Penix n'était plus là, on a tout simplement repêché le joueur qui restait, qui était le mieux classé au niveau de notre classement des espoirs, du repêchage. Tout simplement, on s'est dit, regarde, c'est le meilleur joueur disponible, on va le prendre. Donc ça, je ne peux pas nécessairement les blâmer pour ça. Mais encore une fois, un peu comme les Bears, j'aurais aimé ça voir Byron Murphy se joindre justement à Christian Wilkins et Max Crosby au sein de la ligne défensive. Parce qu'oublie pas, on est dans la même division que Patrick Mahomes. Est-ce qu'on est assez bien
Exact.
lotis à la position carrière pour marquer autant de points que les Chiefs? Je sais que les Raiders ont battu Kansas City en saison régulière l'année dernière, mais quand même. Donc, si on avait ajouté un autre joueur de ligne défensive qui a le potentiel d'être dominant, de jumeler à Wilkins et Crosby, là, à chaque fois qu'on affronte Mahomes, on aurait pu lui faire la vie dure. On n'aurait même pas habité. Donc, pour moi, c'est un peu une opportunité ratée du côté des Raiders au niveau de la première ronde. Maintenant, écoute, on va se tourner vers nos choix, les repêchages qu'on a aimés, ceux qu'on a moins aimés en général. On va y aller rapidement, parce qu'on est déjà à la 42e minute de l'enregistrement. Renaud, quel a été ton choix favori justement de la première ronde?
Ben, je vais avec un gros bonhomme, Joe Alt au cinquième rang, avec les Chargers. Pas que c'était un joueur méconnu, je pense que tout le monde le voyait comme un des très bons joueurs de cette classe de repêchage, Joe Alt. Mais du côté de Los Angeles, on le sait, on a fait un ménage au cours de la saison morte. Il y a beaucoup de joueurs de talent qui sont partis. Bon, les Keenan Allen, les Mike Williams, les Austin Ekeler, même si Ekeler a connu une mauvaise saison, qui ont quitté. On veut faire un renouveau du côté de Los Angeles. Et plutôt que de se lancer sur les joueurs de position, là, de talent, les receveurs, les Malik Nabers qui étaient disponibles, par exemple, on s'est dit, on a déjà un excellent bloqueur à gauche en Rashawn Slater. Bon, on va aller en chercher un autre en Joe Alt. Bon, visiblement, quelqu'un va devoir jouer à droite dans toute cette histoire-là, mais quand même, on le sait, on veut limiter le nombre de coups donnés sur Justin Herbert, qui, au cours des dernières années, a non seulement été frappé plus souvent qu'à son tour, mais a joué blessé souvent aussi. Je me rappelle d'avoir il y a 2 ans, il a passé une saison complète avec quoi? Une côte qui était endolorie. Donc, ce n'est pas
Ouais.
l'idéal pour cette équipe-là. On veut commencer du bon moment, puis surtout, on le sait que les joueurs, les receveurs de nos jours gagnent de gros, gros, gros sous lorsqu'ils deviennent des vedettes. Est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on va gagner dans les 4 prochaines années du côté des Chargers? On ne sait pas si on va être prêt à aspirer au championnat d'ici là. Donc, pourquoi aller chercher un Neighbors et au moment où on va vouloir que la fleur ouvre, devoir le payer 30 millions de dollars par année si ce n'est pas rendu plus d'ici là. Donc moi, j'ai aimé la sélection d'un Joe Hart. On solidifie la ligne à l'attaque du côté de Los Angeles. J'ai l'impression que là, on a un duo de bloqueurs qui pourrait faire le travail pour, on ne sait pas, mais peut-être les 10 prochaines années.
Ouais, moi, j'ai adoré la sélection de Leatu Latu par les Colts d'Indianapolis. Pour moi, il était le meilleur chasseur de quart du repêchage, même devant Dallas Turner du Crimson Tide de l'Université de l'Alabama. Latu, bon, toutefois, il a été opéré au cou, hein, il y a quelques années lorsqu'il portait les couleurs de l'Université de Washington. Mais il a été très productif avec les Bruins de UCLA. Ce que j'aime, c'est la façon dont il utilise ses mains. C'est déjà un technicien. Tu vois pas généralement un aussi jeune joueur qui arrive à sa première année dans la NFL posséder des aussi bonnes techniques pour presser les carrières adverses. Alors là, tout, j'aime cette section-là par les Colts d'Indianapolis. Les Colts ont participé aux éliminatoires l'année dernière. Le fait qu'il y a tellement de 6 des 12 premières sélections étaient des carrières. Je crois que quoi, le premier joueur défensif a été repêché seulement en 16e position, je crois. Ça fait qu'il y a des bons joueurs en défense qui ont chuté au repêchage. Finalement, ben, se sont retrouvés avec des équipes qui sont déjà de qualité, qui ont participé aux éliminatoires la saison dernière, comme les Colts d'Indianapolis. Alors là, tout, ben, il va juste justement aider à améliorer les Colts, selon moi. Maintenant, est-ce qu'il y a, mis à part Michael Penix, on s'entend là, ça a laissé tout le monde incrédule, cette sélection-là, est-ce qu'il y a un autre choix qui t'a laissé, ben, justement là, incrédule lors de la première ronde, t'as surpris?
Il y en a un qui, je sais pas s'il m'a complètement surpris, mais qui, moi, personnellement, je ne l'aurais pas fait. Les Chiefs de Kansas City qui ont repêché, la sensation peut-être du repêchage au poste de receveur. Xavier Worthy, le receveur de poste, tu vois, dans ta fiche, tu le mets à 172 livres. Il y a certains rapports qui le mettaient à 165. Bref, il est pas très gros. Il est extrêmement frêle. Et ce qui a fait son succès, en fait, ce qui fait qu'il est repêché en première ronde, c'est qu'il a battu le record du 40 verges au Combine de la NFL. Et c'est pourquoi je l'ai proclamé moi-même grand gagnant de la période des culottes courtes, j'en parlais tantôt. Mais le grand gagnant là, de la saison où il n'y a pas de football et où on fait du recrutement seulement sur les qualités des joueurs. Ce que j'aime pas, bon, extrêmement frêle, rapidement doit prendre une position importante dans l'alignement des Chiefs parce qu'on sait qu'ils n'ont pas beaucoup de profondeur au poste de receveur, donc ça lui laisse pas beaucoup de temps pour s'adapter à la réalité de la NFL. J'ai hâte de voir quand on va lui mettre deux mains dessus à la ligne de mêlée, comment il va créer de la séparation. Maintenant, les qualités, c'est un receveur extrêmement rapide, donc ça, c'est évidemment complémentaire avec le jeu des Chiefs. On sait qu'on aime étirer le ballon puis qu'on n'a pas toujours été capable de le faire l'an dernier. Mais il y a une combinaison de faits chez Worthy que j'aime pas. C'est le fait que oui, c'est un receveur qui exploite des zones profondes, mais c'est un receveur qui attrape beaucoup de ballons avec son corps et non pas avec les mains. Et je trouve que c'est une combinaison qui parfois fait peur, surtout dans les zones profondes où tu vas parfois avoir besoin de t'étirer plus loin que le demi-coin ou le maraudeur qui te protège. Pour moi, le plafond d'un gars comme Worthy, puis il va en faire des jeux, j'en suis certain, avec les Chiefs, mais je le vois un peu comme un gars comme Marcus Valdes-Scantling qui était là jusqu'à l'an dernier, c'est-à-dire un gars qui, oui, va dans les zones profondes, mais qui a besoin de son corps pour attraper des ballons, ce qui fait que lorsque le ballon doit tomber directement dans les mains, des fois, on échappe des ballons que certains autres receveurs auraient peut-être attrapés. Puis on l'a vu avec Valdes-Scantling l'an dernier. Oui, il a fait des gros jeux. Oui, c'est lui qui a mis le dernier couteau dans le cercueil des Ravens en finale de conférence dans l'Américaine. Mais dans la saison régulière, c'est aussi un gars qui a échappé beaucoup de ballons et qui a échappé des victoires carrément pour les Chiefs.
Oh, on va devoir voir bon, de quelle façon qu'on va déployer Worthy. Tu as parlé de son petit gabarit. J'ai l'impression qu'il va être en mouvement à la levée du ballon, justement. Ça va faire en sorte que les demi-défensifs ne pourront pas mettre les mains sur lui. De toute façon, on utilise ce genre de stratégie-là déjà à outrance du côté de l'attaque de Andy Reid. On va devoir voir qu'est-ce qui va arriver avec Richie Rice, qui a des problèmes à l'extérieur du terrain. Il a été arrêté durant la saison morte. Alors, ça va être des dossiers à suivre du côté de Kansas City. La sélection, moi, qui m'a laissé incrédule en première ronde, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, j'en ai parlé tout à l'heure, Rome Odunze, que j'adore, mais le fait que les Bears avaient d'autres besoins, puis ils auraient pu repêcher justement un Byron Murphy, un Dallas Turner ou un Laiatu Latu, puis là, qu'on était chercher un autre receveur, comme je l'ai dit tout à l'heure plus tôt, on mise déjà sur DJ Moore, Keenan Allen, ça fait beaucoup d'argent d'investir à la position de receveur de passe. Je comprends qu'on veut donner, on veut bien entourer notre investissement à Caleb Williams, mais je suis pas certain qu'on va pouvoir rendre heureux ces trois receveurs de passe. Puis comme tu sais, les receveurs de passe, tu dois t'assurer qu'ils sont heureux parce que sinon, ça vient chialer sur les lignes de côté, ça va dans le bureau des entraîneurs durant la semaine de préparation, ça demande constamment aux carrières de nous lancer plus souvent le ballon. Ça, c'est le genre de choses qui peut déranger mentalement un aussi jeune carrière que Caleb Williams. Donc, moi, je gardais un œil attentif là-dessus tout au long de la saison, de voir si on sera en mesure de garder tout le monde heureux du côté des Bears. Maintenant, rapidement, très rapidement, Renaud, dis-moi, Quel est le repêchage d'une équipe, le repêchage en général d'une équipe que tu as aimé?
J'ai aimé le travail des Steelers. En fait, j'ai aimé le travail des Steelers dans la saison morte au grand complet, là, si on inclut le travail chez les joueurs autonomes. On a renforcé la défense rapidement là, chez les joueurs autonomes en signant Patrick Queen, en faisant une transaction pour Dane Jackson, le demi-coin également. Et là, on arrive au repêchage. Troy Fontenot, Zach Frazier, ce sont des gros bonhommes qui vont avoir beaucoup de poids sur la ligne à l'attaque. On le sait, les Steelers, c'est une attaque qui va être autour de ça, le jeu au sol. On va vouloir courir le ballon avec Harris, peut-être même avec Justin Fields dans le champ arrière. Hein, on ne sait pas qui va être le partant en début de saison ou jusqu'à quel point est-ce qu'on va vouloir se servir de Russell Wilson. Mais bref, c'est une équipe qui est construite pour jouer au sol et qui, en plus, l'attaque va être dirigée par Arthur Smith, qui est un gourou de l'attaque, mais surtout de l'attaque au sol. On se souvient de ses belles années avec Derrick Henry du côté des Titans du Tennessee. Donc moi, j'ai aimé le travail qu'ils ont fait, surtout qu'au cours des dernières années, je trouve qu'il y avait eu un peu de négligence à ce niveau-là du côté des Steelers. À chaque année, on revenait avec des problèmes de ligne à l'attaque, et à chaque année, on se disait la même chose. Bon, ils sont pas capables d'étirer le ballon parce qu'ils n'avaient pas de corps arrière, et ça remonte même aux dernières années à Ben Roethlisberger. Mais la défense fait toujours du travail et on a de bons porteurs de ballon. Alors pourquoi ne pas miser sur nos forces du côté des Steelers? Je pense que c'est ce qu'on a fait au cours de ce repêchage-là. On a même été chercher un receveur, Roman Wilson, bon, en troisième ronde. On verra, c'est un projet selon moi, mais quand même dans un repêchage où il y avait énormément de profondeur au poste de receveur. On s'est dit pourquoi pas aller régler des problèmes sur la ligne à l'attaque. Ensuite, il va y en avoir des receveurs, on va en prendre un.
Robin Wilson, ancien de Michigan, c'est pas un receveur qui a un physique imposant, mais peut jouer à la position de demi inséré. Il est habitué de bloquer. Hein, parce que, comme tu le sais, les Wolverines misaient sur une excellente attaque au sol. On était robuste en attaque. Donc ça, c'est un aspect qu'il ne faut pas oublier. Wilson est capable de faire ça. Puis la sélection de Peyton Wilson, secondeur de ligne, qui était le meilleur secondeur de ligne du football universitaire l'année dernière. Toutefois, il a un long historique, Renaud, de blessures. Je crois qu'il n'y a pas une blessure qu'il n'a pas subie au cours de sa carrière, mais il est très talentueux, très rapide également. Alors, du côté des Steelers, c'est un peu un pari qu'on prend. On est à la recherche d'un excellent secondeur intérieur depuis la perte de Ryan Shazier. Souviens-toi, ça fait plusieurs années de ça. Ben, on avait repêché Devin Bush. Ça n'a pas fonctionné. Donc, on cherche, on met sous contrat des joueurs à cette position-là continuellement, puis on espère que Wilson, ben, va s'avérer être la réponse finalement. Moi, de mon côté, repêchage que j'ai aimé, les Eagles de Philadelphie. Les Eagles, bon, on se souviendra que leur saison 2023 s'est terminée en queue de poisson. On a repêché Quinnen Mitchell, produit de mon alma mater, l'Université de Toledo. Bon, c'est peut-être un peu pour ça que j'ai choisi le repêchage des Eagles, mais quand même, il était considéré comme étant un des meilleurs demi-coins du repêchage. Et on sait à quel point la tertiaire des Eagles en a arraché l'année dernière. Écoute, on accordait des matchs de 300 verges à gauche et à droite. Mais ce que j'aime, c'est qu'en plus de Quinnen Mitchell, qui est un gros demi-coin, là, OK, plus de 190 livres, a reçu un chrono de 4 secondes et 33 centièmes aux 40 verges, 20 répétitions au développé couché, je sais, pour un demi-coin, ça veut rien dire, mais ça démontre sa force physique. Il est robuste, très rapide. En plus de ça, en deuxième ronde, tu vois qu'on était cherché Cooper DeJean, un autre demi-coin, un produit de l'Université Iowa. C'est un autre demi-coin qui est un gros bonhomme. Il pèse plus de 200 livres. Alors, ce serait intéressant de voir est-ce qu'on va l'utiliser à la position de demi-coin ou à celle de maraudeur. Mais une chose est certaine, c'est qu'il amène de la polyvalence au niveau de la tertiaire des Eagles de Philadelphie. On en avait grandement besoin. Alors, à cause de ces deux sélections-là, je sais que ces deux joueurs-là vont avoir un impact immédiat au sein de la défense des Eagles qui en avait grandement besoin. Alors, c'est pour ça que je trouve que les Eagles ont eu un bon repêchage. Il y a les autres Détroits aussi. J'ai bien aimé qu'est-ce qu'ils ont fait. Eux aussi, ils ont adressé les problèmes qu'ils avaient au niveau de leur tertiaire. Alors, on va voir si les Lions, la saison prochaine, pourront poursuivre sur leur lancée. Ben écoute, Renaud, on a fait le tour. On avait beaucoup de pain sur la planche. Alors, écoute, je te remercie de ta participation au podcast, puis on se reparle très prochainement.
Salut Didier, bonne chance avec ton projet.
Hey, merci, bonne fin de journée, Renaud. C'était
Salut.
Renaud Bourbonnais avec qui on a fait l'analyse du repêchage. Mais on peut pas terminer notre épisode sans parler fantasy football. Marc-André Chaloux a dû se montrer patient, étant donné qu'on a débordé un peu en termes de temps avec notre analyse du repêchage. C'est quoi l'expression? Essayer de faire rentrer le lac Saint-Jean dans une chaudière, je crois, c'est bien ça.
Si au
Ouais,
moins
c'est ce qu'on a essayé de faire. Si au moins j'avais pu patienter derrière toi dans ton ranch chez toi, Didier, ça aurait, le temps aurait passé moins là. Plus
Ouais, ben oui, avec une boisson dans un des
rapidement.
fauteuils confortables derrière moi,
Avec un café, oui, en robe de chambre
oui.
probablement, c'est le move derrière toi.
Ouais, c'est un mood relax, un mood
Hein?
détente. C'est ce
Ouais.
qu'on a, oui. Bon, ben écoute, Marc-André, sans plus tarder, on va regarder les sélections qui, selon toi, seront en mesure de rapporter en termes de fantasy football. Il n'est jamais trop tôt afin de planifier là, notre repêchage. Alors, je te cède la place. Quelle est la première sélection que tu as aimée et tu crois là qu'il va rapporter dès le mois de septembre?
Évidemment, Caleb Williams, le cœur des Bears de Chicago, c'est une sélection vraiment judicieuse des Bears, quoi qu'on s'en attendait, évidemment. Et ce que j'aime de Caleb Williams, c'est qu'on fait pas la même erreur du côté des Bears que les Panthers ont fait avec Bryce Young l'année dernière. On entoure notre choix de première ronde, notre cœur de concession avec des armes. Vous en avez parlé tout à l'heure avec Keenan Allen, DJ Moore, Rome Odunze, on a DeAndre Swift, on a Cole Kmet. Donc, Caleb Williams est un talent exceptionnel, puis on l'entoure surtout avec du talent. Dans les premiers classements fantasy, Caleb Williams vient au 12e rang chez les carrières déjà. Donc, un carrière qu'on dit un carrière numéro 1 au niveau fantasy, c'est un carrière top 12. Donc, il a un pied dans la catégorie des quarts numéro 1 et un pied, disons, dans la catégorie des quarts numéro 2. Et ce qui est intéressant, Didier, en ce moment avec Caleb Williams, c'est qu'on le repêche devant, il est classé devant des joueurs comme Justin Herbert, comme Tua Tagovailoa, comme Trevor Lawrence, comme Kirk Cousins, Matthew Stafford, Aaron Rodgers. Bref, ça serait intéressant de voir, écoute, les repêchages fantasy, ça ne sera pas tout de suite, mais ce sera pas tout de suite, mais j'ai bien hâte de voir nous, au mois de septembre, ce que l'avenir va réserver au niveau fantasy à Caleb Williams. Mais une chose qui est certaine, c'est que Caleb Williams est un joueur exceptionnel, entouré, bien entouré. Donc, j'ai bien hâte de voir si tout ça va bien se transposer sur le terrain.
Ouais, ce qui va pouvoir résister à l'historique qui est vraiment terrible des
Ah.
Bears à la position de carrière, on le sait. Ta recherche de carrière et toi depuis Sid Luckman. Je sais qu'on a gagné un Super Bowl à Jim McMahon en 85, mais la carte de visite de cette grande édition des Bears, c'était la défense et l'attaque au sol avec Walter Payton. On a participé à un autre Super Bowl avec Rex Grossman, mais encore une fois, la force de cette édition-là, c'était la défense et le jeu au sol. On va voir si finalement ça va débloquer à la position de carrière des Bears de Chicago. Maintenant, JJ McCarthy, je viens d'en parler avec Renaud Bourbonnais. Je suis curieux de savoir, en termes de fantasy football, qu'est-ce que tu penses de cette sélection de la part des Vikings du Minnesota. Si je suis McCarthy, je vais essayer de viser Justin Jefferson à toutes les fois que je recule derrière ma ligne à l'attaque ou à peu près.
Et il va batailler pour le poste de quart numéro 1 avec Sam Darnold. Donc, je sais pas pour toi, mais pour moi, je trouve qu'il y a quand même des bonnes chances d'être le quart partant lors de la semaine numéro 1.
De meilleures chances
JJ
que Michael
McCarthy,
Penix.
Ouais, absolument, absolument. L'affaire avec McCarthy, c'est que je trouve qu'il ressemble vraiment à Kirk Cousins dans son style de jeu, dans le sens que c'est un joueur qu'on dit qui est parfois erratique en zone profonde, mais dans les zones courtes, dans les zones intermédiaires, il est efficace, avec un haut taux de réussite au niveau de ses passes. Donc là, je vois des comparaisons avec Kirk Cousins. Et on a évidemment, tu en as parlé, des armes à sa disposition. Justin Jefferson, TJ Hawkinson, qui va manquer début de la saison, et Jordan Addison. Donc, il débarque au Minnesota, JJ McCarthy, avec une attaque quand même bien garnie, on peut dire ça comme ça. Et ce qui l'avantage, JJ McCarthy, c'est qu'il est capable, même au niveau universitaire, il dirigeait une attaque qu'on dit professionnelle, une attaque de la NFL, celle de Jim Harbaugh à Michigan. Il est le quart numéro 17 en ce moment au niveau fantasy, donc un quart numéro 2. Intriguant selon moi, avec énormément de potentiel. J'ai hâte de voir comment tout ça va se dessiner lors du camp d'entraînement. Mais pour moi, JJ McCarthy est un grand gagnant du repêchage 2024 de la NFL.
Ah, ouais, il arrive vraiment dans une belle situation. La question, c'est lui, là. Est-ce qu'il a vraiment l'étoffe d'une carrière numéro un? Ben, ça, il y a juste le temps qui va nous le dire. Maintenant, les Cardinals d'Arizona, eux, ils étaient au quatrième rang du repêchage et puis depuis la fin de la saison régulière, ben, on parlait comme quoi qu'ils allaient sûrement repêcher Marvin Harrison Jr. Ils ne sont pas cassés la tête. Ils ont sélectionné l'ancien receveur vedette Deebo Kaiser d'Ohio State. Alors, est-ce qu'il va permettre à Kyler Murray de relancer sa carrière et surtout, est-ce qu'il sera en mesure d'avoir un impact pour ses futurs propriétaires en termes de fantasy football?
La réponse courte est oui. Non, non, mais la réponse longue, ben, c'est probablement le meilleur joueur du repêchage, toutes positions confondues, 2024, Marvin Harrison. Et surtout, tu viens d'en parler, il arrive déjà dans une position avec un corps établi. Un corps qui, il n'y a pas de si longtemps que ça, était un candidat au titre de joueur par excellence de la NFL. Donc ça, c'est intéressant. Côté de Marvin Harrison. Maintenant, il devient le receveur numéro un d'entrée de jeu, le receveur éloigné numéro un des Cardinals de l'Arizona. On a beau aimer Michael Wilson, mais Marvin Harrison est 100 fois plus talentueux que Michael Wilson. Il y a Trey McBride.
On passe aux choses sérieuses.
Ouais. Il y a Trey McBride, l'ailier rapproché aussi, qui devrait connaître une autre saison, disons, en ascension côté fantasy, Trey McBride. Mais pour Marvin Harrison, il est le receveur numéro 14 en ce moment dans les nouveaux classements fantasy. Il est devant Michael Pittman, DJ Moore, Drake London, entre autres. Donc, il faut en ce moment, il va falloir probablement investir un choix de deuxième tour ou troisième tour fantasy en Marvin Harrison sans même qu'il n'ait reçu un seul ballon dans la NFL. Donc, ça demeure quand même une chose non négligeable, mais il a un potentiel, on le dit, astronomique. Il devrait recevoir d'entrée de jeu, selon moi, au moins une dizaine de ballons à sa direction par match. Donc, pour moi, Marvin Harrison, c'est le real deal, comme on dit en anglais. C'est un joueur étoile en devenir. C'est le meilleur même joueur trio de receveur de passe de première ronde ou de début première ronde qui a été repêché. Donc, pour moi, Marvin Harrison, oui, ça devrait avoir un impact fantasy vraiment d'entrée de jeu lors de la semaine numéro 1.
Ouais, pour moi, Marvin Harrison, je le comparais à Larry Fitzgerald avant le repêchage. Là, ben, il se retrouve avec l'ancienne équipe de Fitzgerald en Arizona. Alors, on va bien sûr suivre le développement de sa carrière. Maintenant, il y a un autre receveur qui retient ton attention. Il s'agit de Keon Coleman des Bills de Buffalo. Les Bills qui ont complété deux transactions en première ronde afin de finalement se sortir de la première ronde. Mais ils ont repêché Coleman. Je ne sais pas si tu as vu des faits saillants de son point de presse. avec les journalistes à Buffalo, il est très sympathique. Le jeune Coleman, un produit de l'université FSU.
Écoute, je suis pas un fan, je vais dire d'entrée de jeu, je suis pas un fan de Keon Coleman, en tout cas, bref, mais avant le repêchage, on se demandait, avec la transaction de Stephon Diggs, avec Gabe Davis est parti du côté des Bills, on se dit clairement les Bills vont devoir mettre repêcher un receveur de passe. Ils avaient l'embarras du choix au début de la deuxième ronde parce qu'on a transigé même pour laisser les Chiefs vraiment repêcher Xavier Worthy pour s'en aller au début de la deuxième ronde. Puis on a préféré Keon Coleman à des receveurs comme Ladd McConkey, à Adonai Mitchell, entre autres, qu'on voyait peut-être en fin de première ronde, début de deuxième ronde. Fait que ça me dit que Keon Coleman, il arrive dans une situation idéale. Il aura toutes les occasions de se faire valoir dans l'attaque des Bills. Et on sait, dans une attaque qui est rattachée au niveau fantasy à Josh Allen, ben ça devient intéressant. Le groupe de receveurs, j'en ai parlé, il est décimé en ce moment. On a Dalton Kincaid, l'allié rapproché, qui devrait voir de plus en plus, devrait prendre du galon dans l'attaque des Bills. Mais les autres receveurs, c'est Khalil Shakir, Curtis Samuel et Mac Collins pour le moment. Donc, pour moi, Keon Coleman a vraiment des chances de se faire valoir avec les Bills. On dit qu'il est le roi des ballons contestés, mais que sa vitesse en ligne droite est quand même déficiente. Il n'a pas connu un bon 40 verges niveau des tests d'évaluation de la NFL, mais je veux dire, encore là, j'aime l'expression de Renaud qui dit lors de la période des joueurs en culotte courte, comment il a dit ça tantôt? Je trouvais ça intéressant.
Ouais, c'est ça, c'est comme ça qu'il a appelé ça, ouais.
Mais mon point, c'est que s'il connaît un bon camp, il pourrait voir du temps de jeu de qualité rapidement. Il est le receveur numéro 55 au niveau fantasy en ce moment. Donc, c'est sûr que plus on va approcher de la saison, son rang, son classement va bouger vers le haut ou vers le bas. Mais pour l'instant, Keon Coleman est un nom à retenir absolument parce que la situation à Buffalo est idéale pour
lui. Maintenant, parlant des joueurs qui, selon toi, sont perdants en termes de fantasy football, certains n'ont pas été repêchés. C'est pas qu'ils ne sont pas talentueux, mais ils n'arrivent pas dans une situation où ils vont produire immédiatement. On est obligé encore une fois de parler de Michael Penix. On n'a pas le choix, on en parle depuis le début du podcast, depuis jeudi soir en fait. Alors, vas-y, quelle est ton analyse en termes de fantasy football?
Je vais le faire rapidement. Vous avez quasiment tout dit. Donc, pour moi ou pour les experts, même Michael Penix, ce qui est intéressant, c'est que c'était probablement le corps le plus prêt à jouer dans la NFL. Puis avec, genre, bon, il sera derrière Kirk Cousins. Et maintenant, avec le contrat de Kirk Cousins, on peut se poser la question, est-ce que Michael Penix, quand est-ce qu'il va devenir partant dans la NFL? Est-ce qu'il aura 27, 28 ans? On sait qu'il a 24 ans en ce moment. Évidemment, au niveau fantasy, ben, il ne sera pas repêché dans les pôles de type redraft. Donc, on recommence année après année, Michael Penix. Et dans des pôles de type keeper ou dynastie, disons, je pense qu'il devient simplement une police d'assurance à long terme. Il devient un joueur intéressant à long terme, mais à court-moyen terme, il devient seulement une police d'assurance si Kirk Cousins n'est pas prêt à entamer la saison ou si Kirk Cousins se blesse durant la prochaine saison.
Maintenant, quel est le deuxième joueur qui, tu crois, se retrouve dans une situation perdante là, en termes de fantasy football? Deuxième joueur recrue. Qui sera une recrue en fait?
Le rêve pour Jonathan Brooks, c'était d'être repêché par les Cowboys de Dallas qui, ma foi, avaient besoin d'un porteur de ballon. Finalement, on a rapatrié ce matin Ezekiel Elliott du côté des Cowboys, finalement. C'est le plan B. Mais bref, la réalité, c'est que Jonathan Brooks se retrouve avec les Panthers de la Caroline maintenant. Il a été le premier porteur de ballon repêché cette année au repêchage. Et bon, c'est sûr qu'il se remet d'une grave blessure, d'une déchirure du ligament croisé antérieur. Il se retrouve maintenant dans un ménage à trois en Caroline. Et on sait, avec Chuba Hubbard, qui a connu quand même une excellente saison l'année dernière, un peu sous le radar, et Miles Sanders, qui, d'après moi, est juste un
Déception.
vétéran qui. Ouais, absolument, absolument. Je pense qu'il peut vraiment passer dans la hiérarchie des porteurs de ballon, Miles Sanders, assez rapidement. Et historiquement, les Panthers l'année dernière a été l'une des pires attaques de l'histoire de la NFL. Et j'aime l'idée de Jonathan Brooks, j'aime l'idée du repêchage aussi de Xavier Leggett. Au moins, on ne fait pas la même erreur deux fois. On s'est acheté également une ligne à l'attaque du côté des Panthers. Donc, pour moi, pour l'an 2, Bryce Young sera un corps à rabais. Et du moins, on tente vraiment d'aider notre jeune carrière, ce qu'on n'a pas fait l'année dernière. Est-ce que les Bears ont fait avec des armes en attaque? On a transigé pour Diontae Johnson également, le receveur de passe des Steelers. Donc, pour moi, ce serait intéressant de voir les Panthers de Caroline cette saison, mais je ne pense pas ça va rapporter des dividendes dès septembre en l'an 1. Donc, pour moi, Jonathan Brooks, au niveau fantasy, ça devient un joueur simplement de type keeper, qui est type dynastie. Il pourrait peut-être voir de l'action, peut-être en troisième essai, mais pour moi, ça demeure quand même un porteur de ballon marginal, bien qu'il est hyper talentueux.
Ouais, il y a des joueurs comme Michael Penix, on n'arrête pas d'en parler, mais là, dans cet épisode du podcast, Rome Odunze est deuxième. Là, j'ai l'impression que tu vois les choses du même œil que moi, là, de son arrivée
Ouais.
à Chicago.
C'est intéressant de voir la perspective entre Caleb Williams est un gagnant et Rome Odunze est un perdant parce qu'il est hyper talentueux, c'est pas ça la question. Mais il arrive dans une situation complexe, vous en avez parlé tout à l'heure, il y a maintenant beaucoup de bouches à nourrir du côté des Bears et il va se retrouver comme peut-être, surtout dès le départ, comme troisième roue du carrosse. Et on sait, moi, j'ai réfléchi à tout ça, puis l'année dernière, j'aimais tellement Jackson Smith-Njigba du côté des Seahawks de Seattle, puis on avait DK Metcalf, on avait Tyler Lockett, puis on s'est dit, ah, c'est pas grave, hein? JSN. Receveur plus talentueux va trouver une façon de tirer son épingle du jeu, de recevoir des ballons. Ça a été vraiment une saison décevante pour JSN la saison dernière. Puis je pense que Rome Odunze, ça peut, du moins à sa saison recrue, ça peut ressembler à ce que JSN a vécu du côté des Seahawks de Seattle. Par contre, au niveau dynastie, au niveau keeper, je pense que Keenan Allen pourrait simplement être à Chicago pour un an. Donc, pour l'avenir, pour l'an 2, l'an 3, je pense que Rome Odunze devient un choix intéressant. Il pourrait vraiment décoller la saison prochaine, mais pour l'instant, il est le receveur numéro 36 au niveau fantasy. On le repêche devant des joueurs comme DeAndre Hopkins, qui est un receveur numéro 1, devant Christian Watson, qui est selon moi le receveur numéro 1 des Packers, devant Jordan Addison dans une bonne attaque. Bref, pour moi, Rome Odunze, c'est ça. C'est triste parce que c'est un joueur talentueux, mais je pense qu'au niveau fantasy, son impact. Lors de l'an 1, ça ne sera pas aussi grand qu'on l'aurait souhaité.
Oui, on aime le talent de Rome Odunze. On s'entend là-dessus, là, mais c'est juste la situation dans laquelle il vient d'atterrir à Chicago. Tu l'as dit, beaucoup de bouches à nourrir. On n'a même pas mentionné le nom de Cole Kmet. Lili rapproché, c'en est un autre. Il a été productif. Question de savoir est-ce que Caleb Williams va le cibler autant que le faisait Justin Fields? Ça reste à voir. Hein. Il y a des carrières qui, eux, aiment utiliser des ailiers rapprochés beaucoup plus que d'autres. Bref, ça reste à voir, mais je suis entièrement d'accord avec toi que Rome Odunze, malgré le fait qu'il est très talentueux, pas convaincu qu'il a atterri dans la meilleure situation, en fait, d'être productif en termes de fantasy football dès l'automne prochain. Maintenant, Brock Bauer, j'en ai parlé tout à l'heure en compagnie de Renaud. Encore une fois, les grands esprits communiquent, comme on dit. On dirait que tu vois ça de la même façon que moi hein, pour Brock Bauer. C'en est un autre, tout comme Rome Odunze. On adore son talent, il est très explosif. Comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'il était en santé, pour moi, Brock Bowers était un, si ce n'est pas le meilleur joueur de football universitaire l'année dernière en compagnie de Jaden Daniels. Mais ouf, la situation dans laquelle il atterrit à Vegas, avec qui on a maintenant au poste de corps, Gardner Minshew, Aiden O'Connell, pas un grand duo. Je sais que Minshew a mené les Colts en éliminatoire l'année dernière, mais... quand même, j'ai hâte de voir ça. En tout cas, je cède la place. Qu'est-ce que tu penses de l'impact que Bowers va avoir en fantasy football?
J'avais écrit dans mes notes une destination médiocre. C'est vraiment ça du côté de Brock Bowers. C'est ça, on a parlé d'un monstre à deux têtes aussi. Un monstre, un petit monstre peut-être à deux têtes avec Michael Mayer qu'on a repêché également l'année dernière en deuxième ronde. Et pour moi, pour toi, pour les joueurs fantasy qui espéraient une saison à la Sam Laporta, hein, c'est le même genre de talent à Brock Bowers, même qu'on disait que c'est un talent comparable à Travis Kelce. Il a mené plusieurs catégories de l'Université de Georgia au chapitre chez les receveurs, au chapitre des réceptions, au chapitre des verges la saison dernière. Ben, ça ne se passera pas parce qu'on a également, tu sais, on a encore Devante Adams, on a encore Jacoby Myers, là, on a Michael Mayer, on a Brock Bowers. Je veux dire, du côté des Raiders, puis on a un décor vraiment très ordinaire. Donc, pour moi, Brock Bowers, ça ne se passera pas. Ben, je ne dis pas qu'il n'aura pas sa chance. Je pense que des deux alliés rapprochés des Raiders, c'est Brock Bowers qu'il faut repêcher. D'ailleurs, son classement fantasy, il est l'allié rapproché numéro 11 en ce moment. C'est très haut au niveau fantasy. Il est devant des joueurs comme Dalton Schultz, que je pense que je préfère en ce moment, à Brock Bowers, Dallas Goedert, Cole Kmet, Pat Freiermuth. Donc, les gens sont très hauts sur les qualités de Brock Bowers, mais je pense qu'au final, ce qu'il peut rapporter au niveau fantasy, ça reste à déterminer. Et je pense que à cause de la situation, je pense qu'il faudra vraiment calmer nos ardeurs sur le cas de Brock Bowers. Si nos attentes sont vraiment trop élevées, ben, il ne pense pas qu'il va livrer la marchandise lors de l'an 1.
Ouais, c'est dommage. J'aurais aimé voir Bowers atterrir sur le
terrain
avec une meilleure formation.
Incroyable.
Les Bengals. Pour une fois, ils ont fait la belle chose. Il y avait des rumeurs qui envoyaient que les Jets. Finalement, on a repêché un joueur de ligne à l'attaque. On avait vraiment besoin de faire ça là, du côté des Jets. Je sais qu'on en a signé durant la saison morte, mais on a signé des vétérans comme Tyron Smith, qui a 33 ans, bloqueur à droite. Je pense que c'est Morgan Moses, je me souviens plus. Lui aussi est âgé de 33 ans. C'est bel et bien lui. Donc, ça prenait du jeune sang au niveau de la ligne à l'attaque. C'est ce qu'on a fait. C'est pas le moment là de repêcher un Brock Bowers. On doit tenter de repêcher Aaron Rodgers. Ça fait presque 2 ans qu'on n'a pas vu Rodgers. Match,
c'est mon cœur fantasy qui parlait, Didier. Là. J'aurais préféré une situation où il n'y a pas d'allié rapproché. Bref. Et un quart dominant. Les Bengals, ça a été parfait. Parfait.
Ouais, les Bengals, ben. Ah, si Burrow peut rester en santé, hein, parce qu'il est fragile, Joe Burrow, on n'a pas le choix de l'admettre. Hein. On l'aime tous, je crois. Mais c'est tout le temps des blessures. Ouais. Hein. Il a été capable de finir l'année, encore une fois. Il a commencé la saison blessée, puis il l'a terminé avec une autre blessure.
En passant, en terminant, vous avez fait la hiérarchie des quarts des Broncos. Vous en avez oublié un tout à l'heure. Ben DiNucci.
Il est
rendu
content
avec les Broncos.
Oh, wow. Stidham Wilson DiNucci. Wow. Non, moi,
Bonix va être le partant avec ça, Didier.
Bonix va être le partant. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute là-dessus dès le premier match de la saison. Je pense que c'est convaincant. Ouais, je suis convaincu de ça. Bon, ben Marc-André, on a fait le tour. Alors, je te remercie, puis on remercie les gens qui ont téléchargé cet épisode du podcast, qui le regardent sur YouTube également. Alors, on vous remercie, c'est une relance du podcast Le Sac du Corps. On espère que cet épisode-là vous a plu, puis on va voir d'autres choses qui vont s'ajouter au podcast au cours des prochaines semaines et au cours des prochains mois. Mais là, c'était une première, on espère que vous l'avez aimé. Je vous invite à partager les extraits qu'on va mettre sur les réseaux sociaux avec vos amis et que vous allez les inviter à nous écouter ou à nous regarder. Alors, on se quitte et on se reparle la semaine prochaine.